VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 13 janvier 2017 en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, visite du ministre ivoirien de la Défense aujourd'hui à Bouaké où il y a eu des tirs hier.
Des dirigeants de la CDAO attendus aujourd'hui en Gambie où le camp Gamé veut que la Cour suprême empêche l'investiture du président élu Adama Barrow.
Attentat du 15 janvier 2016 à Ouagadougou. Un commanditaire a été identifié avec un numéro de téléphone syrien.
Le sommet Afrique-France débute aujourd'hui à Bamako avec la rencontre des ministres des Affaires étrangères.
En Syrie, les médias d'État signalent une série d'explosions à la base militaire de Mazé dans la banlieue de Damas.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense, Alain Richard Donwahi, est attendu aujourd'hui à Bouaké pour apporter les promesses du gouvernement et mettre un point final à la mutinerie. À la veille de son arrivée, les militaires qui s'étaient mutinés dans la deuxième ville du pays la semaine dernière ont tiré en l'air dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la matinée pour maintenir la pression, a constaté un journaliste de l'AFP. Ces tirs avaient cessé jeudi en fin d'après-midi.
En Gambie, des dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest conduit par le président nigérien Muhammadu Buhari, sont attendus aujourd'hui à Banjul pour convaincre M. Diame de céder le pouvoir sans heurts le 19 janvier. À la veille de cette visite, les députés nigérians ont adopté hier une motion accordant l'asile au président gambien s'il acceptait de quitter le pouvoir le 19 janvier. Le même jour, le camp de Yahya Diame a demandé à la Cour suprême d'empêcher l'investiture du vainqueur déclaré du scrutin Adama Barrow, selon une copie de sa requête obtenue par l'AFP.
Retour sur l'attentat du 15 janvier 2016 à Ouagadougou. Un des commanditaires de cet attentat a communiqué avec les terroristes avec un numéro de téléphone syrien. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est la procureure de Ouagadougou qui l'affirme. Les trois terroristes qui ont attaqué des bars et des hôtels de la capitale burkinabé ont reçu un message d'un des commanditaires qui leur demandait si ça se passait bien. Dans un entretien avec l'AFP, Maïsa Sérémé précise que le commanditaire a aussi demandé combien il y avait de morts et si les terroristes avaient un message particulier à lancer à l'intention de la population et de ceux qui font le djihad comme eux. Un appel qui provenait d'un numéro de téléphone syrien, mais rien n'indique que ce commanditaire avait effectivement appelé à partir de la Syrie ou qu'il s'y trouvait. La procureure a indiqué que les commanditaires, comme les chefs des attaques, ne sont pas des Burkinabés, mais qu'aucun nom ne peut encore être divulgué. L'attaque avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui l'avait attribuée au groupe Al-Morabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se rendra dans les prochaines semaines au Nigeria, au Cameroun et au Tchad, trois pays frappés par la violence de la secte islamiste Boko Haram. C'est ce qu'a affirmé hier Matthew Rycroft, l'ambassadeur britannique auprès de l'ONU. Ces trois États limitrophes souffrent à l'instar du Niger d'une grave crise humanitaire en raison des violences liées à Boko Haram qui ont placé 11 millions de personnes dans une situation de crise alimentaire.
Procès en appel d'Hissène Habré à Dakar, au Sénégal, l'ex-chef d'État tchadien connaîtra son sort dans un peu plus de trois mois, selon le président du tribunal, Anastasie Tudiech.
Les plaidoiries des parties civiles et des avocats commis d'office pour la défense ayant pris fin, le magistrat malien Wafi Ougadeï a annoncé que l'affaire est mise en délibéré pour le 27 avril. Le verdict sera définitif. Le 30 mai dernier, les chambres africaines extraordinaires ont condamné Hissène Habré pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Le juriste américain Reed Brody, qui travaille avec les victimes depuis 1999, estime que cette décision a été prise sur la base de preuves très solides. Si le tribunal rend un verdict de culpabilité le 27 avril, l'ancien chef d'État de 74 ans, qui s'est absenté lors des séances en appel, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Ses avocats continuent de dénoncer des erreurs dans la procédure et réclament l'invalidation du verdict déjà pris contre leurs clients.
La gouvernance de l'Afrique est minée par l'autoritarisme de ses dirigeants et l'évasion fiscale massive constat d'un mouvement citoyen transcontinental, tournons la page, réuni hier à Bamako au Mali, où débute ce vendredi la rencontre Afrique-France. Éric Manirakiza.
À l'image de la déclaration du Mandé, les traces d'un héritage ancestral autour de Soundiata Keïta, tournons la page a choisi de se faire entendre au cœur de la civilisation africaine et berceau de la culture des droits de l'homme. Dans un communiqué, ce collectif associatif déplore une collusion entre dirigeants autoritaires et multinationales responsables d'une évasion fiscale massive. Selon Tournons la page, l'Afrique subsaharienne a perdu en 2013 près de 74 milliards de dollars dans les flux illicites. Ce montant représente les aides internationales et des investissements étrangers octroyés à ces pays, souligne un rapport de ce collectif. Le sommet Afrique-France qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako est dépassé, dit la Gabonaise Laurence Ndong. Elle affirme que l'événement ne tient pas compte des réalités africaines. Tournons la page, réclame l'alternance et la transparence dans les procédures d'appel d'offres et d'attribution des marchés publics, mais aussi la renégociation des traités fiscaux existants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, une série d'explosions a touché la base militaire de Madzé dans la banlieue ouest de Damas dans la nuit de jeudi à vendredi. La chaîne de télévision d'État syrienne qui a annoncé cette nouvelle a parlé de bombardements. Plusieurs sources syriennes ont déjà fait état de bombardements israéliens en Syrie depuis le début du conflit et notamment sur cette base de Madzé. Contactée par l'AFP sur ces dernières explosions, l'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. A noter qu'Israël a mené plusieurs attaques contre sa bête noire, le Hezbollah libanais, qui se bat aux côtés du régime syrien contre les rebelles et les djihadistes.
La Russie est d'accord pour que les États-Unis participent le 23 janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan, au pourparlers sur le règlement du conflit en Syrie. C'est ce qu'a affirmé hier soir le chef de la diplomatie turque. Les États-Unis devraient certainement être invités et nous sommes tombés d'accord sur ce point avec la Russie, a-t-il déclaré à Genève. Ces discussions ont été annoncées par la Russie et la Turquie après que les deux pays sont parvenus à un nouveau cessez-le-feu en Syrie, pour la première fois sans l'implication des États-Unis présents à toutes les discussions sur les trêves précédentes.
Le ministre turc des Affaires étrangères parlait à Genève en marge des discussions sur Chypre. Il faut dire à ce sujet que les dirigeants des deux communautés chypriotes ainsi que les hauts diplomates turcs, grecs et britanniques ont accepté hier de poursuivre leurs efforts afin de parvenir à un accord sur la réunification de Chypre. Nous sommes très proches d'un règlement, a estimé le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en appelant à la patience.
Le bureau de l'inspecteur général du ministère américain de la Justice a annoncé hier qu'il allait vérifier un certain nombre d'allégations mettant en cause l'action de la police et de la justice fédérale avant l'élection présidentielle de 2016. Précision de Tatiana Mosso.
Ces vérifications se concentreront notamment sur le rôle crucial exercé par James Comey, le patron du FBI, qui, tour à tour, a été la cible de vives critiques des républicains puis des démocrates pour ses annonces concernant Hillary Clinton. Début juillet, M. Comey avait recommandé de ne pas poursuivre l'ex-secrétaire d'État sur ses courriels envoyés grâce à un serveur privé. Cette décision avait ulcéré les républicains qui ont accusé le chef du FBI d'avoir opté de façon incohérente contre l'inculpabilité de la candidate démocrate. Dans une lettre au Congrès le 28 octobre, James Comey avait relancé l'affaire des emails de l'ex-première dame, mais le FBI avait finalement maintenu sa recommandation de ne pas poursuivre Hillary Clinton à 48 heures du scrutin présidentiel. Le bureau d'inspection du ministère de la Justice est un organe indépendant dirigé par un inspecteur général nommé par le président des États-Unis. Ce service est censé enquêter sur l'efficacité de l'administration de la justice en traquant les abus et les violations éventuelles.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Ouverture aujourd'hui du sommet Afrique-France à Bamako, un sommet qui comporte également un forum économique. Les organisations patronales africaines vont rencontrer leur alter ego français, le MEDEF, pour évoquer l'agriculture, l'agroalimentaire, mais aussi les énergies renouvelables, le financement de projets, le numérique et l'innovation. Le forum de la jeunesse qui se tient au même moment recevra les patrons pour une plénière jeunesse, entrepreneuriat et entreprise. L'implantation de lampadaires à basse consommation a démarré à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Selon Alpha Oumar Dissa, il s'agit de remplacer les lampes et les lampadaires très énergétivores de 150 ou de 250 watts par des lampes LED de 60 à 80 watts. Résultat, une réduction de l'émission de CO2 de 1062 tonnes par an, ce qui va permettre une économie d'énergie de 216 millions de francs CFA par an. Un nouvel établissement de microfinance va être lancé au Cameroun. L'EMF espère octroyer des crédits à plus de 3000 petites entreprises ou organisations et aider à la création de 15 000 emplois directs ou indirects. Son lancement officiel est prévu en juin prochain.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
On est à un jour de l'ouverture de la CAN 2017 au Gabon.
Samedi, le match d'ouverture à Libreville entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Autre rencontre de ce groupe A, le Burkina Faso face au Cameroun. Les Sénégalais dans le groupe B, eux, sont arrivés hier au Gabon, comme l'a constaté Amdine Sy, l'un des envoyés spéciaux de VOA Afrique sur cette CAN 2017.
Dans cette ambiance de fête rythmée par des chants et des pas de danse que les Lions de la Teranga ont été accueillis ce jeudi à l'aéroport de Libreville. En effet, les supporters sénégalais du Gabon ont non seulement déroulé le tapis rouge au poulain d'Aliou Cissé, mais ils ont également mis l'ambiance. Les éléments du 12e Gaïné du pays d'Ali Bongo se sont massés sur le chemin des Lions pour offrir à leurs ambassadeurs un accueil digne de leur rang, à la grande satisfaction du milieu terrain sénégalais Idriss Ganagueye.
On sait que les Sénégalais sont partout, on l'a bien vu aujourd'hui, on est bien content de les avoir parmi nous et surtout de les avoir derrière nous. On sait que ça sera important pour la confiance et surtout pour nous pousser à aller vers l'avant.
Après ce bain de foule, Moussa Sow et ses partenaires ont rallié directement Bongoville qui sert de tanière aux Lions du Sénégal qui vont entamer la compétition ce dimanche en affrontant les Aigles de Carthage à Medine Sy, Franceville, VOA Afrique.
La CAN 2017 n'a pas encore commencé, mais on parle déjà de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Vous savez que l'épreuve se déroulera au Cameroun et la Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort des éliminatoires de cette CAN 2019. Alors, y a-t-il eu des surprises ? Élément de réponse avec Élisée Oumpati.
Des duels très attendus pour cette ultime étape avant la phase finale. Ainsi, dans le groupe D, l'Algérie va en découdre avec le Togo, le Bénin et la Gambie. Les deux Congos vont s'affronter dans le groupe G, en compagnie du Zimbabwe et du Libéria. La Côte d'Ivoire et la Guinée seront dans un face-à-face qui promet dans le groupe H. Le Rwanda et la République centrafricaine complètent le groupe. Autre duel, la Tunisie face à l'Égypte dans le groupe J. Le Burkina Faso contre l'Angola dans la poule I et Mali-Gabon dans la poule C. Le reste des groupes, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles sont logés dans le groupe E. Dans le groupe F, nous avons le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et la Sierra Leone. Groupe K, Zambie, Mozambique, Guinée-Bissau, Namibie. Et puis groupe L, Cap-Vert, Ouganda, Tanzanie et Lesotho. Déjà, on aura droit à des préliminaires qui auront lieu le 20 mars prochain. Et trois matchs sont programmés. Sao Tomé, Madagascar, Comores, Îles Maurice et Djibouti contre Soudan du Sud. La première journée de ces éliminatoires aura lieu le 5 juin prochain. Boycon, Élisée Rumpati, VO Afrique.
Coupe du monde de handball en France.
Dans le groupe B, mauvais départ pour l'Afrique puisque l'Angola a été battue 42 à 25 par la Slovénie. Défaite également de la Tunisie face à la Macédoine 30 à 34. À suivre, le champion d'Afrique en titre, l'Égypte, qui joue tout à l'heure contre le Qatar dans le groupe D. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Denver écrase Indiana 140-112. Brooklyn Nets est battu par New Orleans Pelicans 104-95. New York Knicks a eu raison de Chicago 104-89. Et San Antonio bat Los Angeles Lakers 134-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les travaux du 27e sommet Afrique-France débutent ce vendredi à Bamako avec la rencontre des ministres des Affaires étrangères. Que pensent les Maliens de ce sommet? Eh bien, de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
11 ans après avoir accueilli l'Afrique et la France en 2005, voilà que l'honneur revient au Mali d'abriter le 27e sommet Afrique-France. Mouriba Dabo, secrétaire à la communication du parti Djam.
Moi, je pense que ce sommet est très porteur. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans la négation. Ce sommet peut apporter beaucoup de changements par rapport à notre situation. D'aucuns pensent de l'impérialisme des Occidentaux. Plus souvent, en Afrique, c'est vrai que les Occidentaux, ils sont très présents. Par rapport même à nos élections, moi, je pense que la situation est en train de changer.
Certains jeunes Maliens qui ont initié plusieurs actions contre le sommet de Bamako pensent que la France-Afrique n'est pas une bonne affaire pour les Africains. Ibrahima Kébé du mouvement Face au Cameroun.
Et la France-Afrique en tant que telle, c'est un fiasco criminel. Et avec la France-Afrique, c'est la politique avant la morale. Avec la France-Afrique, c'est d'être capable de tout faire pour satisfaire ses besoins. C'est pourquoi il y a eu le génocide au Rwanda en 1994. Et la France-Afrique, c'est même la crise en République du Mali. Qui se passe aujourd'hui.
Dans la capitale malienne, avec l'organisation de cette rencontre, certains travailleurs du secteur informel se sont frottés les mains.
Moi, je suis Abdelaziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des usines qui vont combattre un peu le chômage. Et pendant ces sommets-là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également.
Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Ces sommets-là, peut-être ça va faire du changement avec multifonctionnel de tous les chômages. Donc moi, je pense que le sommet, là, c'est très important ici au Mali. Ça va nous donner beaucoup d'avantages, surtout les jeunes.
Émergence et paix sont les deux thèmes de la rencontre de Bamako. Les Maliens sont plus préoccupés par la quête de la paix.
Souri Brahim Konaté, journaliste. Je ne m'attends pas à plus d'innovation. C'est vrai, le Mali recevra une rencontre internationale qui est le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même quelque part la communauté internationale parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les un tiers du pays.
En tout cas, les jeunes Maliens ne veulent pas être des figurants lors de ces sommets. Ils ont déjà rédigé une déclaration dite de Bamako qui sera lue à l'ouverture de la rencontre des chefs d'État. Mohamed Salia Touré, président du Conseil national de la jeunesse du Mali.
Qu'on soit là, pas simplement pour être dans le décor, mais en ayant en main un document qui traite de nos problèmes, mais aussi de nos propositions de solutions à nos problèmes. Donc, c'est pas être là seulement, venir assister, applaudir, mais nous venons avec des propositions concrètes.
Le sommet Afrique-France, c'est aussi un grand dispositif sécuritaire à Bamako et environnant. Des policiers et militaires déployés partout dans la ville. C'est aussi des perturbations dans la circulation. Et c'est pour cela que le gouvernement malien a chômé la journée de ce vendredi 13 janvier 2017 pour les travailleurs de la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Thomas Nahimana, prêtre catholique rwandais et opposant qui vivait au Havre depuis plusieurs années, entend retourner dans son pays. L'abbé Nahimana avait embarqué le 23 novembre à Amsterdam à destination de Kigali via Nairobi. Il lui a été signifié qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays natal. Idriss Fall a reçu hier dans nos studios Thomas Nahimana.
Oui, très 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 bientôt. C'est vrai qu'on a essayé d'y arriver le 23 novembre dernier, que nous avons été bloqués à Nairobi. Mais là, pour cette fois, nous, on va essayer le 23 janvier encore d'arriver à Kigali.
Mais comment si à chaque aéroport on vous refoule?
C'était une mesure politique, c'était une décision politique qui est injuste. Et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, l'a reconnu publiquement lui-même en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on avait empêché des citoyens rwandais à rentrer dans leur pays. Et pour cette fois, j'espère bien qu'on va respecter notre décision de rentrer chez nous et de pouvoir participer à la vie publique, si possible. Oui.
Vous savez que Victoire Ingabire a déjà essayé et vous savez aussi comment ça s'est terminé, non?
Oui, je connais personnellement Victoire Ingabire, mais comme tous les Rwandais aussi, on sait quel était vraiment son objectif de pouvoir contribuer à la bonne marche de ce pays. Et nous savons où elle est maintenant et c'est malheureux d'avoir pris la décision d'emprisonner Victoire Ingabire et nous souhaitons et nous voudrions bien qu'elle soit libérée sans retard.
Vous ne craignez pas, en fait, d'en arriver à la même situation vous-même?
Nous sommes conscients des dangers, nous sommes conscients des difficultés que nous aurons à rencontrer. Mais franchement, je n'ai pas peur. Je suis déterminé avec mon équipe à retourner chez nous et à pouvoir participer à la vie nationale.
Participer à la vie nationale, il faudrait que votre parti soit reconnu quand même, non?
C'est l'objectif premier qui nous pousse à y aller parce que nous voulons y arriver au mois de janvier. Ne sais pas essayer, mais faire toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer ce parti en vue de pouvoir participer aux élections présidentielles d'août 2017 et aux élections parlementaires de l'année suivante.
Mais depuis que le Rwanda est sorti du génocide, toutes les élections ont été gagnées d'avance par le FPR, le Front patriotique au pouvoir, dirigé par M. Paul Kagame, non?
Vous avez raison parce que en 2003, par exemple, j'étais moi-même observateur des élections. J'ai vu dans quelles conditions les élections étaient menées et surtout organisées. J'ai vu qu'il y avait des tricheries ouvertes et même les observateurs neutres l'ont dit. Nous nous attendons plutôt à mieux en 2017 et nous allons lutter pour ça, pour que les élections soient plus ouvertes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train de faire des tournées pour faire savoir à la communauté internationale ce qui se passe au Rwanda et surtout pour les inviter vraiment à suivre de près ces élections.
Le prêtre catholique et opposant rwandais Thomas Nahimana dans les studios de VOA Afrique hier, ici à Washington.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Dans une semaine, l'Amérique aura non seulement un nouveau chef d'État en la personne de Donald Trump, mais aussi un nouveau vice-président, Mike Pence, qui succédera à Joe Biden. Joe Biden, un dirigeant qui aura marqué son passage au Congrès et dans l'exécutif par sa maîtrise de la politique étrangère, son art de la négociation, son franc-parler et surtout son honnêteté. Pour revenir sur la vie et la carrière de Joe Biden, à qui Barack Obama vient de décerner la médaille de la liberté, Gaby Dorsil a joint le politologue Lorenzo Morris.
Il est un homme très puissant dans le Parti démocrate et même dans l'histoire nationale comme sénateur d'abord. Et il a à plusieurs reprises présenté sa candidature, même à la présidence, sans réussir simplement parce qu'il était au centre des thèmes et des tendances politiques. Il était toujours acceptable à beaucoup, mais il n'était jamais séparé comme un candidat spectaculaire parce qu'il était au centre. Et à la suite du succès du candidat Obama, il était choisi que logiquement, afin que Obama peut attirer d'autres gens bien expérimentés, beaucoup d'alliances dans le parti et parmi les supporters du Parti démocrate.
Professeur Morris, on dit souvent que les vice-présidents américains sont là pour les funérailles et d'autres cérémonies. Est-ce que Joe Biden a pu marquer son passage d'une façon différente?
Je crois que oui, parce qu'il était essentiel à la promulgation et à la réussite de l'Obamacare, qui était l'un des buts principaux d'Obama. Il était essentiel dans le débat sur la guerre en Irak et sur les questions de l'engagement dans cette région.
Il a la réputation, dit-on, d'être un fin négociateur.
Oui, oui, c'est ça, ça. Il est aimé par tout le monde. Il est très agréable, très aimable. Surtout quand il n'est pas devant la télévision, il parle aisément, ouvertement avec tout le monde, de toute tendance. Il attire l'appui des électeurs noirs, des blancs traditionnels, souvent des gens modérés, de droite aussi bien que de gauche.
S'il y a une erreur particulière que Joe Biden a commise pendant sa carrière, ce serait quoi?
Ça serait de parler ouvertement à n'importe qui, c'est-à-dire devant les micros, il a fait tant d'erreurs. C'était d'être trop honnête devant le micro, devant la télévision.
Et c'est cette franchise qui lui a valu de commettre pas mal de gaffes. Il s'en va, Barack Obama l'a honoré hier à la Maison Blanche. Que pouvez-vous dire, professeur Morris, sur la relation qu'a entretenue M. Obama avec son vice-président?
Il C'est rare qu'un président et vice-président deviennent de très bons amis, mais dans ce cas-ci, ils sont de très bons amis et le vice-président est respecté comme un grand-père presque. Et c'est évident pour tout le monde qui les regarde ensemble.
C'était Lorenzo Morris qui enseigne les sciences politiques à l'Université Howard, ici à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La CAN 2017, le coup d'envoi, c'est pour demain samedi au Gabon et sur place. L'ambiance n'est pas vraiment à la fête, comme l'a constaté l'envoyé spécial de VO Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Le compte à rebours poursuit ici au Gabon pour le coup d'envoi de la CAN 2017 et la question de la participation populaire continue de se poser. Surtout en comparaison avec la CAN 2012 également jouée ici. Ngoulou Auguste, la trentaine, chauffeur de taxi, sait où le problème se situe cette année.
Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il peut aller, un ventre affamé, il y a beaucoup de choses au Gabon. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engouement, regardez-vous-même, regardez la vie. Là, c'est parce que vous êtes au centre-ville, allez dans la périphérie, vous allez voir, c'est pratiquement rien, il n'y a rien.
Comment s'est passée la première CAN?
Oui, elle avait beaucoup d'engouement. La première CAN, vraiment, les gens étaient vraiment beaucoup intéressés. Mais par rapport à celle-là, vous-même, vous voyez, elle n'a pas trop d'engouement. Bon, on espère que peut-être à partir de demain, tout ce qu'on demande, c'est aux Panthères aussi de donner aussi l'engouement lors du match, faire en sorte que les Gabonais s'intéressent plus encore à la CAN, surtout pour le premier match.
La question de la crise électorale revient également sur les lèvres comme une autre explication du peu d'engouement des Gabonais par rapport à cette CAN. L'opposition et la société civile appellent à boycotter la compétition. Tout cela place une responsabilité particulière sur les épaules des Panthères, l'équipe nationale gabonaise, estime Eric, un électricien rencontré aux abords du stade de l'Amitié de Libreville.
Normalement, le football, c'est un sport qui ramène un peu la joie aux populations. Donc, ils sont vraiment appelés à être déterminés, à remporter, par exemple, les trophées, qui est la coupe de cette CAN, pour ramener un peu la joie auprès de la population gabonaise.
D'autres Gabonais pensent tout de même que la CAN est une aubaine dont il faut profiter. Nora Michel dirige une école de football de la capitale gabonaise.
Il y a beaucoup de personnes qui vont venir ici au Gabon, qui vont essayer de s'intéresser sur comment on travaille au niveau du foot ici au Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une idée exacte du travail que l'on fait.
Originaire du Cameroun, Michel Ngaping fabrique des meubles en rotin au quartier Glace de Libreville. Il espère attirer de nouveaux clients à la faveur de la CAN 2017.
Ça me permet d'avoir de nouvelles figures qui peuvent découvrir ce que je fais parce que la période là, les gens sont un peu, ils ont plus de temps libre, donc ils peuvent découvrir ce que je fais et ça fait une idée de ce que j'apporte aux autres.
Quelques préoccupations subsistent par rapport à cette CAN 2017, mais une chose est sûre, une fois que la clameur montera des stades, il sera difficile de résister à la magie du ballon rond ici au Gabon. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Votre santé, votre avenir vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition.
Dans cette édition, nous parlerons du diabète, une maladie grave qui touche plus de 400 millions de personnes dans le monde.
Nous recevons comme invité le docteur Awa Mbokan. Elle est diabétologue et directrice du cabinet médical au Sénégal. Elle nous livrera tous les petits secrets sur la maladie.
Nous écouterons aussi le témoignage d'un malade, ainsi que celui du docteur Frédéric Nsawiyumva, directeur du CELUCODIA, le centre de lutte contre le diabète au Burundi.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé le samedi à 8h30 GMT et rediffusé les dimanches et mercredis à la même heure.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.